Monseigneur Robert Le Gall, être, sentir avec, ça fait partie de votre mission. En 1992, vous avez été initiateur du groupe de Cheftogne.
Ah oui.
Alors expliquez-nous la place de la vie monastique, le rôle de la vie monastique dans les églises et dans les églises d'Europe. Vous êtes quand même très sensible à tout cet aspect d'écuménisme. Vous avez aussi écrit un livre avec un lama, le moine et le lama tibétain. Comment vous vivez cette sentir avec, ce consentir ?
Vous savez qu'en 92, à mon initiative, avec le père abbé de l'époque, le père Michel Van Parijs de Cheftogne, on avait créé ce groupe qui continue encore pour obéir vraiment à la proposition que faisait le pape Jean-Paul II de respirer à deux poumons pour construire à partir de ses racines chrétiennes l'Europe. Et nous avons fondé ce groupe pour aider cette respiration à deux poumons entre la tradition occidentale et la tradition orientale. Et nous avons circulé dans des monastères d'Europe, y compris des monastères orthodoxes russes ou biélorusses, où nous sommes allés à Minsk, à Grodno et à Moscou. Puis, 2-3 ans après, on a conduit notre groupe tout entier à Grodno, et puis à Moscou, encore au Danilovski. Et le patriarche Alexis II était toujours très confiant dans notre travail, parce qu'il dit « avec les moines, on s'entendra toujours ».
Là, les moines peuvent avoir un rôle très important dans l'unité au plan œcuménique.
Authentiquement, vous savez que dans l'Église orientale, chez les orthodoxes plus précisément, ne peuvent devenir évêques que ceux qui ont fait profession monastique.
C'est ce que vous êtes.
C'est ce que je suis, mais un cas un peu particulier. On est deux dans l'épiscopat en France, qui sommes d'anciens pères abbés. Et le père abbé Bernard-Nicolas Aubertin, qui a été évêque de Chartres et qui est maintenant archevêque de Tours. Et moi-même, qui donc ai été évêque d'abord du plus petit diocèse de France, le diocèse de Mans dans Lozère, et qui suis maintenant dans cette belle ville de Toulouse, et qui est très, très vivante avec un institut catholique. Mais dans l'orthodoxie, et donc la vie monastique est liée à l'épiscopat.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je trouve que c'est c'est pas une nécessité absolue. La preuve, l'Église latine n'a pas ce paramètre comme nécessité. Saint Thomas d'Aquin distinguait entre l'état de perfection acquise et de perfection à acquérir. L'évêque, en tant qu'il a la plénitude du sacrement de l'ordre, a la plénitude des moyens de sanctification pour les autres. Mais ça n'empêche pas que comme religieux, comme moine, je suis sur une voie de conversion. C'est une manière d'être des deux côtés, comme ça, davantage voué au mystère d'un Dieu qui nous sanctifie peu à peu et jusqu'à la plénitude, était pour moi emblématique.
Et alors, les moyens de sanctification, de conversion pour les autres, est-ce que c'est cela qui vous a amené à écrire ce dialogue avec un lama tibétain ? Comment est-ce que l'idée est venue ?
Je n'ai pas choisi. Là encore, je n'ai pas choisi.
Vous avez consenti ?
J'ai consenti, après avoir posé des questions. Comment cela pourra-t-il se faire ? Et donc j'ai reçu un téléphone un jour de quelqu'un qui est maintenant bien connu puisqu'il s'occupe des religions au monde et qu'il m'a proposé d'écrire un livre de dialogue avec un lama tibétain.
Pourquoi il a pensé à vous ?
Et c'est la question que je lui ai posée. Alors il me dit, vous vous trompez de porte. Et donc vous devriez aller voir le père abbé de Saint-Vendry, dont Massin, qui est enseigné à l'Institut catholique de Paris et qui était même aux études au point de vue des religions non chrétiennes, et qui a fait des séjours dans des monastères en Thaïlande en particulier. Il me dit, vous allez donc le voir. Il me dit, oui, je connais bien, etc. Mais il connaît bien les choses, mais peut-être trop. Moi, je voulais quelqu'un qui soit plus naïf et qui voit les choses dans un premier degré, qui ne soit pas forcément au courant de tout ça pour que ce dialogue puisse être un dialogue vrai et que chacun pose avec beaucoup de respect à l'autre et des questions essentielles. Alors j'ai réfléchi quelque temps et puis j'ai consenti. Le lama est venu à l'abbaye pendant 3 jours, que ça a été un petit peu étonnant. C'est la première fois qu'on voyait quand même un lama en robe safran dans l'assistance pendant 3 jours. Et parmi nous, et un vrai tibétain, c'était pas un lama occidental, comme on dit parfois. Et donc ça s'est passé de manière profonde, belle. Et quelques temps après, 2-3 semaines après, je lui ai rendu sa visite dans son centre tibétain de Dordogne pendant 3 jours aussi. Et ça a été un complément nécessaire donc pour notre dialogue.
Est-ce que vous pouvez nous dire un point dont vous vous souvenez et qui vous tient à cœur de ces moments avec le lama tibétain.
Une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce dialogue, c'est de redécouvrir à travers sa démarche, ou ce qu'il essayait d'en dire, ce qu'il pouvait en dire, de ce que parmi les premiers théologiens du christianisme, enfin qu'on appelle d'un mot difficile bien sûr à saisir quand on entend pour la première fois, les pères apophatiques. Alors, l'apophase, ça vient d'un mot grec, d'un préfixe grec, ça veut dire on préfère ne pas parler trop de ce qui nous dépasse. Donc, on sait que Dieu est, mais qui est Dieu, c'est difficile de le dire. Alors lui, quand on lui demandait qui est Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu, il ne répondait pas à la question. Il ne répondait pas. Et j'ai fini par comprendre, et j'ai même demandé si c'était ça qu'il voulait dire, il n'a pas dit non, et que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de Dieu en profondeur, tant qu'on n'a pas eu l'illumination, on se garde d'en parler. Et c'est une dimension du christianisme qu'on oublie peut-être parfois, que j'ai redécouverte dans ce dialogue, de rester en deçà, c'est ce qu'on appelle la voie négative, rester en deçà de ce que le langage peut... Et quand on dit le Père et le Fils et l'Esprit Saint, on a peut-être tendance à penser qu'on connaît tout de Dieu. Ben, ce que c'est qu'un Père, ce que c'est qu'un Fils, un peu moins ce que c'est que le souffle de l'Esprit Saint, mais ce qu'on dit est vrai, mais ça risque d'être banalisé. Oh, il m'a redonné le champ de profondeur de mystère de Dieu et de mystère de l'adoration. Et il a fini par lâcher, quand on le tannait avec d'autres interlocuteurs, on va dire qui est-ce qu'il y a un Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu, et pour vous, qu'est-ce que c'est que l'absolu, qu'est-ce que c'est que le transcendant? Il a fini par lâcher une image, c'est l'azur très pur. Il était très ému quand il a dit ça. J'ai même fait une conférence qui a saisi beaucoup de monde et où j'ai commenté, à partir de cela, Exode 24. Quand Moïse, après le sacrifice de l'Alliance à l'Horeb, sur le Sinaï, monte après le sacrifice avec les notables d'Israël. Ils montèrent, ils virent le Dieu d'Israël. C'était comme un pavement de saphir. Un pavement de saphir. Alors, le saphir, c'est bleu, c'est l'azur. Pour retrouver cette image, ça m'a beaucoup ému, d'autant plus que cette image, quand vous relisez le premier chapitre d'Ézéchiel, qui est proprement indescriptible, toujours au-dessus, toujours qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu, qu'est-ce que c'est également le saphir. Très ému, ce n'est qu'une image, donc on se rejoignait à travers une image.
Est-ce que vous avez déjà fait le lien avec la résurrection ?
D'une certaine manière, en profondeur, constamment, puisque la résurrection... On a du mal à expliquer ces tombeaux vides et les études qui sont faites actuellement sur le Saint-Sphère de Turin, fait de déflagration interne de lumière qui advient, etc. Et c'est toujours la lumière dans Ézéchiel et dans l'azur, et c'est de notre expérience humaine de la lumière va dans ce sens-là aussi. La résurrection, ce n'est pas une lumière bleue, on ne peut pas tirer les choses jusque là.
Mais il s'agit de lumière.
Il s'agit de lumière et de lumière qui remplit tout. De lumière totale, parce qu'il n'y a pas seulement du bleu, comme violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, mais c'est de la lumière totale et pleine du ressuscité.
Vous dites, Monseigneur Le Gall, dans une de vos interventions, « Si nous rendons grâce, c'est parce que nous recevons la grâce. » Oui. Expliquez-nous. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs ce que nous sommes en train de partager ensemble ? Nous rendons grâce parce que nous recevons la grâce.
La grâce, quand on parle de la grâce, c'est quelque chose de gracieux, c'est de la gratuité. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur des questions difficiles de la crise économique et de la justice, assis sur le principe de gratuité. C'est gracieux, c'est gratuit. Voilà ce que c'est la grâce, c'est donner. Donc le mystère de Dieu, c'est un mystère de don. Vous savez qu'un des noms de l'Esprit Saint, c'est qu'il est le don de Dieu. Et donc un don, c'est gratuit, on ne peut pas l'exiger. Alors l'attitude de fond par rapport à un don, c'est les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Et on ouvre les mains, on élargit les capacités, comme saint Augustin le dit, dilater les espaces de la charité, pour faire que vous puissiez recevoir le plus possible. Ou comme dit Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je serai le torrent. Et ça rejoint ce que nous disions depuis le début de notre entretien, car parler de consentement, c'est également, on est toujours petit par rapport à quelque chose de grand qui nous arrive. Et on est petit et on ne le crée pas, on ne le prend pas, on le reçoit. Rendre grâce, c'est suppose qu'on ait d'abord reçu la grâce, qu'on la reçoive et qu'ensuite on la fasse sienne et qu'on l'offre à nouveau.
Alors en ce temps de résurrection, qu'est-ce que vous pourriez ajouter ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs, à vos paroissiens ?
C'est que comment pouvons-nous en effet entrer pleinement dans cet amour qui est allé jusqu'au bout ? au travers nos grandes difficultés, soit personnelles, soit communautaires. Donc à travers tout ça, et les difficultés du monde dans lequel nous sommes, les difficultés de l'Église, avec tout cet acharnement à propos de, hélas, de tristes révélations sur la pédophilie, mais dans laquelle il y a un aspect de harcèlement qui est injuste par rapport au clergé, etc. Et nous sommes dans un moment difficile, comme le Christ a été dans un moment difficile. Le Triduum Pascal, c'est vraiment la passion, la souffrance, la mort, les injures. Et ce faisant, comme dit l'oraison de l'Annonciation, pour que nous allions à travers la passion jusqu'à la résurrection, grâce à l'incarnation du Seigneur. Donc nous essayons humblement de mettre nos pas dans ceux de Jésus pour que nous recevions de lui et de la force de l'Esprit qu'il nous donne cette capacité d'aller jusqu'au bout. Le bout qui n'est pas la mort, il n'est pas la sépulture, mais qui est la résurrection, la lumière, la pleine lumière.